Viens m'apprendre à t'aimer. Voilà quelque chose de tellement important. Nous avons besoin de comprendre et saisir davantage à quel point Dieu nous aime. Alors dire ça comme ça et le dire avec force peut paraître bizarre. Ça fait des années, peut-être que vous êtes chrétien, tous les dimanches, si on parle bien d'une chose, c'est de l'amour de Dieu. Si on vous disait, mais qu'est-ce qui vous touche le plus chez Dieu, on ferait un sondage, ce serait l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons besoin encore et encore de comprendre, saisir à quel point nous sommes aimés de Dieu. Et quand je regarde ma vie, quand je gratte un peu, quand je parle avec d'autres chrétiens, je me rends compte qu'on a un problème avec ça. On a un vrai problème avec l'amour de Dieu. On a laissé cet amour pénétrer notre cœur quand nous avons découvert l'amour de Dieu. Mais pour que cet amour continue à pénétrer et nous transformer, c'est une autre affaire. Et l'amour de Dieu n'a pas tout le temps l'impact que ça devrait avoir. Ce matin, j'aimerais nous encourager à vivre cette nouvelle année scolaire en étant davantage guidés par l'amour de Christ. Et pour cela, j'aimerais que nous prenions ensemble deux versets, 2 Corinthiens chapitre 5, juste les versets 14 à 15. Si vous me posiez la question, Manu, quels sont tes versets préférés? Eh bien, ils sont affichés. Donc, c'est les versets qui m'ont le plus bouleversé, encouragé dans mon ministère, dans tout ce que je vis. Et je veux vous les donner ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Je lis. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Voilà nos deux versets. Paul, donc, est l'auteur de cette lettre. Il écrit à l'église de Corinthe. C'est une église très fragile spirituellement. Il y a parmi les chrétiens, en tout cas de cette église, des adversaires de Paul. Certains mettent en doute son autorité et ses enseignements. Il a été attaqué dans sa personne, dans son caractère, dans son enseignement et dans sa réputation. Par cette lettre, Paul dénonce ceux qui tordent la vérité en enseignant des mensonges. Il défend son autorité d'apôtre. Il est envoyé de Dieu pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Et enfin, il invite les croyants à ne pas se détourner de la vérité de la parole de Dieu. C'est une lettre où Paul ouvre vraiment son cœur. L'amour de Christ nous étreint. Le terme sénéco, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, en grec, pour le mot presse, décrit une pression qui suscite l'action. On peut le dire de différentes manières. L'amour de Christ nous presse de tous côtés, nous tient serrés, nous entoure, nous saisit, nous contrôle, nous domine, nous tient liés, nous contraint, ne nous laisse pas le choix, nous entraîne, nous submerge, nous pousse en avant, nous pousse à l'action, nous oblige à faire quelque chose, nous motive. Je vous laisse avec tous ces mots. qui aide à comprendre ce que Paul est en train de dire. Le terme grec est très, très, très fort. Il y a comme une puissance dans l'amour de Jésus-Christ qui ne peut pas nous laisser neutres. Cet amour ne peut pas nous laisser insensibles. Cet amour ne peut pas nous pousser à servir Dieu à moitié. Ce n'est pas possible. L'amour de Christ est comme une personne qui est derrière nous et nous pousse en avant de toutes ses forces. On ne peut rien faire d'autre que d'avancer en courant, tellement c'est fort. Quand l'amour de Christ touche notre cœur, nous ne pouvons rien faire d'autre que de lui offrir entièrement notre vie. Oui, prends. Prends tout, Seigneur. Cela vient naturellement. L'immense amour de Jésus-Christ presse tellement l'apôtre Paul qu'il ne peut faire autre chose que d'offrir à Jésus-Christ un ministère plein de gratitude, plein d'amour, plein de reconnaissance. Les adversaires de Paul veulent tuer sa réputation en l'attaquant par des accusations fausses. Paul doit donc se défendre. Mais il ne se défend pas pour briller, pour être vu ou pour être admiré. Il se défend pour la gloire de Dieu. Il se défend pour que tout son service pour Dieu soit offert comme un acte de reconnaissance en réponse à Jésus-Christ qui l'a tant aimé. L'amour de Christ produit en Paul un amour fort, une immense gratitude, un profond désir de vivre pour plaire à Dieu. Les amis, lorsque nous considérons les raisons pour lesquelles Jésus est mort, nous ne pouvons pas nous empêcher de l'aimer en retour. Un autre texte va dans le même sens, plein d'autres aussi, mais je vous cite juste celui-ci que j'aime bien. C'est l'apôtre Jean qui dit ceci, « Quant à nous, nous les aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Je vais vous laisser avancer à chaque fois. Mais comment l'amour de Christ peut-il pousser autant l'apôtre Paul à une vie de gratitude au point de servir Dieu sans réserve, et quel qu'en soit le prix? La réponse est juste après. Je relis 2 Corinthiens, donc juste le verset 14 du chapitre 5. « En effet, l'amour de Christ nous étreint. Pourquoi ? Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. » Paul dit ici qu'ils ont acquis une certitude, une pensée, un discernement, un jugement, une conviction. Cette certitude est qu'un seul homme est mort pour tous. C'est ainsi que Paul décrit l'amour de Christ. L'amour de Christ, de Jésus-Christ dont il parle, s'est manifesté à sa mort sur la croix. Il donne la chose la plus touchante et la plus émouvante de l'amour de Christ. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Il est mort à la place de tous. Il est mort de la mort qu'on aurait dû tous subir. Il a souffert la mort que nous avions tous méritée. Il a porté le châtiment de tous nos péchés. Il est mort pour ses ennemis, car le péché fait de nous tous les ennemis de Dieu. Cette vérité écrite en quelques mots est bouleversante. Et elle est suffisante pour nous pousser à nous consacrer totalement au service de Dieu. Un seul homme est mort pour tous. C'est Jésus-Christ. Mais pour nous amener encore plus loin, dans cette forte gratitude, Paul ne s'arrête pas à là. Il dit, un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. La mort de Jésus-Christ est appliquée à ceux qui placent leur foi en lui. C'est-à-dire que le châtiment du péché, de tout le mal que nous avons fait, de toutes nos désobéissances à la volonté de Dieu, ce châtiment-là est tombé sur Jésus-Christ. Ce châtiment n'a plus besoin de tomber sur nous. C'est fini. Grâce à sa mort honteuse, terrible, sanguinaire et cruelle à la croix, nous sommes libérés du châtiment du péché et donc de l'enfer. Amen. L'enfer n'est plus notre destinée. Le feu qui ne s'éteint jamais n'est plus notre destinée. Une vie d'angoisse, de tourment, loin de Dieu et loin du bonheur n'est plus notre destinée. Une vie de souffrance n'est plus notre destinée. Ça, c'est fini. Notre destinée, c'est la vie éternelle avec Dieu, notre Créateur. Pourquoi ? Parce qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Bien sûr, ceux qui placent leur foi en Christ. Très certainement que l'apôtre Paul a écrit ces mots avec ses tripes, n'est-ce pas ? Peut-être avec les larmes aux yeux. Christ est mort pour tous. Un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. La Bible dit ceci de vraiment émouvant. Je donne juste deux textes pour nous aider à comprendre la profondeur de ce que Paul est en train de dire. Romains chapitre 5. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, ça veut dire qu'on ne pouvait rien faire du tout, Christ est mort pour des pécheurs. Pas pour des personnes saintes, mais pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste ? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien ? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Un autre texte, 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Voilà deux textes qui nous rappellent que nous n'avons rien fait, que nous sommes ennemis de Dieu. Il n'a pas donné sa vie, Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour des gens bien, des gens qu'il aime. Mais tout notre comportement fait de nous des ennemis de Dieu. Le péché fait de nous des ennemis de Dieu. Et c'est à des ennemis, c'est pour des ennemis que Jésus-Christ est mort. Quel amour ! Difficile à comprendre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais il y a encore la suite. Paul n'a pas encore fini dans ce qui le pousse à une forte reconnaissance. La mort de Jésus-Christ ne nous libère pas juste de l'enfer pour la vie éternelle avec notre Créateur, même si cela est déjà énorme. La mort de Jésus-Christ nous libère aussi du pouvoir du péché. Cela veut dire que notre vie de péché n'a plus de pouvoir ni d'emprise sur nous. Manu, j'y arrive pas, la tentation est trop forte, tu t'en rends pas compte, je n'y arriverai jamais. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu as reçu la puissance, si tu es chrétien, si tu appartiens à Dieu, tu as reçu la puissance de l'Esprit pour vivre dans la sainteté, pour vivre des délivrances, des libérations. La Bible dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, plus esclaves de la convoitise, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la colère, de la jalousie, du vol, de la tricherie, de la tromperie, de l'hypocrisie, de mauvais caractère, du mal, de l'adultère, de l'immoralité, de l'idolâtrie, de la rancune, de tout excès de nourriture et de boisson, du matérialisme, de l'amour, de l'argent, etc., etc. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Ah ! Cela ne veut pas dire que ce n'est pas sans combat, n'est-ce pas ? Et il y a des situations où nous avons besoin de combattre avec un frère, une sœur, dans la foi, et il y a certains combats où nous ne pouvons pas rester seuls. Donc ce serait grave de dire simplement cela, comme ça, et vous laisser avec ces belles affirmations, alors que dans le concret, il y a une vraie lutte. Et il y a des luttes personnelles où j'avais besoin d'un frère qui prie pour moi, qui me dit « Manu, tu vis ça, mais rappelle-toi, Dieu t'aime. Rappelle-toi ceci, Dieu t'aime. » J'avais besoin d'un frère pour me rappeler cela. La mort de Jésus-Christ nous libère du péché. La mort de Jésus-Christ avait pour but de donner la vie. Paul dit ceci dans la suite, dans verset 15 de notre texte, « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Cela veut dire que nous pouvons mener une vie nouvelle, une vie sainte, pleine d'amour. pas parfaite, mais qui tend vers la perfection. Une vie où l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi sont de plus en plus présents par la puissance de Dieu en nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, car vivre pour nous-mêmes, c'est être centré sur soi. Et qui dit être centré sur soi, dit que, tout simplement que ça, c'est vivre dans l'orgueil, l'égoïsme, et non dans un amour intense pour Dieu et pour les autres. Par la puissance de Dieu en nous, nous apprenons à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu qui se résume à aimer Dieu plus que tout et à nous aimer les uns les autres d'un amour intense qui glorifie Dieu. J'aimerais maintenant paraphraser un peu 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15 pour nous aider à bien comprendre ce que Paul a dit jusqu'ici. L'amour de Christ nous presse à agir par amour pour lui et à nous consacrer totalement au service de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement que de l'aimer et de lui exprimer par toute notre vie notre reconnaissance. Pourquoi l'amour de Christ nous presse ? Premièrement, parce que nous sommes convaincus, nous avons cette conviction que Jésus-Christ nous aime. Cette conviction nous habite. Voici le summum de son amour pour nous. Il est mort pour tous. Un seul, lui, Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos péchés, nos fautes, toutes nos désobéissances à la volonté de Dieu. Il est allé mourir à notre place cruellement, comme un criminel, sur une croix, alors qu'il n'a jamais péché. C'est ainsi qu'il nous sauve de l'enfer et nous offre la vie éternelle avec Dieu, notre Créateur. Pourquoi l'amour de Christ nous presse ? Deuxièmement, parce qu'il nous a transformés. Il nous a donné le Saint-Esprit afin d'être saisis par son amour et rendus capables de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de l'aimer plus que tout et de nous aimer les uns les autres d'une manière intense. Très certainement que si l'apôtre Paul prenait le temps de nous expliquer le texte, il le ferait mieux que moi. J'ai quelques questions maintenant. Est-ce que l'amour de Jésus-Christ nous presse encore aujourd'hui ? Est-ce que cet amour de Christ nous presse ? Soyons honnêtes devant Dieu maintenant. Est-ce que l'amour de Jésus-Christ nous pousse à nous consacrer à lui sans réserve, quel qu'en soit le prix ? Est-ce que l'amour de Jésus-Christ nous bouleverse encore et encore au point de le servir sans compter ? Est-ce que son amour nous presse au point que nos enfants peuvent le dire ? Au point que notre épouse ou notre époux peut le dire à cause de notre manière de vivre ? Est-ce que nos collègues de travail peuvent le dire ? Nos collègues qui peuvent être embêtants ? Les gens qui sont difficiles à aimer, est-ce qu'ils peuvent dire « cet homme, cette femme sont habités de l'amour de Dieu » ? Est-ce que notre entourage peut dire « waouh, je sens en lui qu'il y a un amour qui le presse, c'est l'amour de Christ » ? Une autre question qui me paraît tellement importante est celle-ci. Que faisons-nous pour que l'amour de Jésus-Christ continue à avoir un impact dans notre vie. Je répète, que faisons-nous pour que l'amour de Jésus-Christ continue à avoir un impact dans notre vie ? Si nous ne pouvons pas répondre à cette question, si nous ne faisons rien pour nous maintenir dans l'amour de Christ, c'est très dangereux pour notre foi. Nous allons tout le temps nous refroidir spirituellement. J'aimerais vous proposer 5 choses. Premièrement, contemplons et louons Jésus-Christ. En ce moment, Noé, mon fils, a découvert l'histoire du roi lion. Tout le monde connaît cette histoire, facile, hein ? Ça a eu tellement de succès auprès des enfants et auprès des adultes. Tous les jours, il nous demande à Fanny et moi de lui remettre la musique du roi lion. Il ne s'en lasse pas du tout d'écouter et de réécouter cette musique à longueur de journée et de reparler de certains épisodes de l'histoire. Et à force, vous pouvez imaginer les parents que nous sommes. Écoute, aujourd'hui, on n'a pas trop envie, si on ne peut pas passer à une autre musique. Et là, on a Eric qui est à la maison, là. Et ce matin, Noé qui est allé vers Eric pour lui reparler de l'histoire du roi lion. Il arrive avec le livre et tout. Donc vraiment, il ne se lasse pas de raconter, d'écouter encore et encore l'histoire. Les amis, nous avons ici un exemple. Nous ne devons jamais nous lasser de l'histoire de Jésus-Christ, de sa mort qui nous sauve du péché et de l'enfer pour la vie éternelle. Le jour où nous nous lassons de ce message, nous perdrons notre joie, notre enthousiasme, cet amour qui nous presse et nous pousse à la reconnaissance. Sachons prendre en début de journée et peut-être aussi à d'autres moments, un temps ou plusieurs temps pour nous rappeler qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, sa mort, sa victoire, tout ce qu'il a accompli pour nous. Louons-le pour cela. Soyons dans la louange, jour après jour. Ne laissons jamais passer un seul jour sans prendre le temps de penser longuement à Jésus-Christ. Qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et ce qu'il fait encore aujourd'hui en nous. Deuxièmement, méditons la parole de Dieu en cherchant à mieux le connaître. Le meilleur outil pour connaître Dieu et aussi pour être saisi par son amour, c'est la parole de Dieu, la Bible. Ne la lisons pas comme n'importe quel livre. C'est la parole de Dieu. Faisons de nos lectures de la parole de Dieu des temps de rencontre avec lui. C'est tellement important. C'est un temps d'intimité. Et donc, ce n'est pas juste, bon, il faut que je lise ma Bible parce que c'est comme ça, c'est ce que Dieu attend de moi. Mais c'est plutôt, lisons-la parce que nous rencontrons Dieu et nous voulons l'écouter. Ce qui est super, c'est que nous allons bientôt avoir notre défi de lecture du Nouveau Testament qui est affiché derrière en 8 semaines. Et une des questions que nous allons nous poser tout au long de nos lectures, vous avez entendu les 5 questions, mais l'une des questions est celle-ci, qu'avez-vous appris sur l'amour de Dieu ? Intéressant. Tout au long de notre lecture du Nouveau Testament, être là à être comme des personnes qui cherchent le trésor, hein, qu'est-ce que nous apprenons sur l'amour de Dieu ? Même quand nous allons voir peut-être un texte qui mentionne la sainteté ou la sagesse de Dieu, qu'est-ce que dans cette sainteté ou dans cette sagesse de Dieu, nous découvrons de l'amour de Dieu ? Je prie que nous puissions, au travers de ces 8 semaines de lecture et cette simple question, être encore plus touchés et bouleversés par l'amour de Dieu, que l'amour de Jésus-Christ nous presse et nous pousse à le servir sans réserve. Troisièmement, entretenons une relation intime avec Dieu. Dans la semaine, sur Facebook, j'ai envoyé une citation que j'aime beaucoup de George Muller, un évangéliste remarquable. Je cite, tu peux le mettre, « Dès le matin, sachons faire de toutes choses un sujet de prière et qu'il en soit ainsi pendant toute la journée. » Je redis, « Dès le matin, sachons faire de toutes choses un sujet de prière et qu'il en soit ainsi pendant toute la journée. » Une belle citation, n'est-ce pas ? Apprenons à faire de toutes choses un sujet de prière. Apprenons à parler à Dieu tout au long de la journée. Soyons convaincus de l'amour de Dieu et jouissons de son amour à chaque seconde de notre journée. Quatrièmement, que toute notre vie exprime à notre Dieu notre reconnaissance. Je crois que cela doit être un engagement de chaque jour. Faisons tout notre possible pour que chaque action que nous faisons soit une manière de dire à Dieu « Je t'aime ». Merci pour la mort de Jésus-Christ pour moi. Merci pour ton amour. Je fais ça pour mon époux, je fais ça pour mon enfant, je fais ça pour telle ou telle personne que je connais, que je côtoie. Et à chaque fois que je le fais, je pense à mon Dieu et je dis merci. Cet acte-là, c'est pour te dire à quel point je suis reconnaissant pour ta mort à la croix, Jésus. Cinquièmement, prions que Dieu nous révèle son amour et nous donne plus d'amour pour lui. Nous avons sans cesse besoin d'une révélation de l'amour de Dieu. Et je n'ai pas pris le temps de voir avec vous tous les textes où l'apôtre Paul montre à quel point la prière est importante pour comprendre les richesses de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de Dieu pour comprendre l'amour de Dieu. Et concernant l'amour que nous devons avoir pour Dieu, j'aime l'exhortation du pasteur John MacArthur, que je vais citer là aussi. Il dit ceci, « Si vous voulez avoir beaucoup d'amour pour le Christ dans votre cœur, vous devez souvent vous mettre à genoux devant le trône de la grâce pour reconnaître humblement la faiblesse, sinon l'absence de votre amour pour le Christ. Lamentez-vous sur les péchés qui étouffent vos sentiments et demandez avec ferveur qu'il mette dans votre cœur un amour véritable. Ne cessez pas de prier à cet égard. » Ne cessez pas de prier à cet égard. Je répète ces cinq manières de faire pour que l'amour de Jésus-Christ nous presse. Contemplons et louons Jésus-Christ. Deuxièmement, méditons la parole de Dieu en cherchant à mieux le connaître. Troisièmement, entretenons une relation intime avec Dieu. Quatrièmement, que toute notre vie exprime à Dieu notre reconnaissance. Et enfin, prions que Dieu nous révèle son amour et nous donne plus d'amour pour lui. Dans un court moment que je vous propose de silence, je vous invite tout simplement à peut-être demander pardon à Dieu si vous vous êtes refroidi dans votre amour pour lui. Et demandons ensemble qu'il nous révèle son amour et qu'il nous aide à l'aimer davantage. Prenons ce temps dans la repentance et dans une demande de foi afin que Dieu nous saisisse, que son amour nous presse. Voilà, juste quelques minutes dans le silence, chacun pour soi. Prions ensemble. Dieu notre Père, merci infiniment pour ton amour manifesté en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Merci pour ton pardon, pour la vie éternelle, pour l'intimité avec toi. Nous te demandons pardon si notre amour pour toi s'est refroidi. Pardonne-nous, agis en nous, continue à déverser dans nos cœurs ton amour par le Saint-Esprit. Bouleverse-nous encore et encore afin que ton amour nous étreint, nous presse, nous pousse à t'obéir avec amour et reconnaissance. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.